Blablamix.
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 Yeah, my neighbor, your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? In times like this.
C'est Blablamix.
C'est Blablamix.
Hello. Il y a des gens qui regardent les informations en soupirant de consternation. Et puis, il y a ceux qui éteignent. Il y a ceux qui sauvent leur peau en fuyant les bombes. Et il y a ceux qui vendent des armes depuis leur bureau douillet. Il y a aussi ceux qui s'unissent. Il y a ici une activiste du partage. Un musicien oudiste. Une jeune cinéaste. Des jeunes qui n'ont toujours pas leur statut et qui, pétris d'angoisse, viennent quand même tous les dimanches. Animé Blablamix. Fanny, Hassan, Dipou, Schumann, Lena, Hala, Florian, Véronique et les Larsen qui s'invitent.
Comment ?
Et vous, qui nous écoutez ? Bonjour, salam alaikum.
Oui, oh, oh, oh. Blabla words.
Blabla croche, blabla word, c'est la rubrique pour apprendre l'alphabet. Bonjour Hassan.
Bonjour.
Quelle est votre langue? Quelle est ta langue?
Ma langue, c'est l'arabe et le français.
Et la musique?
Oui, la musique, bien sûr. Oui.
Alors, avec toi, nous allons apprendre des mots de l'instrument. L'instrument qui... Je te laisse nous présenter ton instrument.
Alors, mon instrument. Mon instrument s'appelle le oud. A-O-D. Oud, c'est le oud ou le luth oriental. C'est un instrument à cordes. Hein. C'est comme le luth occidental qu'on jouait au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, surtout. Alors, chez nous, les cordes, on les appelle aoutar. Si vous pouvez répéter après moi. Aoutar. Aoutar.
Aoutar.
Aoutar.
Aoutar.
Aoutar.
Aoutar.
Et en arabe, en fait, quand on chante, on dit nous chantons, on dit nourani. Nourani.
Nourani.
Nourani.
Nourani.
Nourani.
Nourani.
Voilà. Moi, je joue sur les aoutars. Aoutar.
Aoutar.
Aoutar. Ensemble.
Aoutar.
Nourani.
Nourani.
Nourani. Et la musique, en fait, chez nous, comment ça s'appelle la musique? On dit la musique en arabe. C'est très simple.
Musique.
Voilà, c'est presque. Musique. Musique.
Musique.
Musique.
Musique.
Alors, on va dire. Musique, musique, musique.
Musique, musique, musique.
Musique, musique, musique.
Musique, musique, musique.
Nourani l'musique, nourani. Allez, nourani l'musique, nourani. Nourani l'musique, nourani. Nourani l'musique, nourani. Et on chante des paroles. Les paroles sont kalimat. Kalimat. Après moi, s'il vous plaît. Kalimat.
Kalimat. Kalimat.
Nourani l'musique, nourani.
Nourani l'musique, nourani.
Nourani
كلمات نغني كلمات.
Merci beaucoup Hassan, c'était Blabla World, vous écoutez Blabla Mix et Schumann et complètement Blabla accro.
Blabla minute.
Blabla minute. Blabla minute.
Alors, ce musicien extrêmement pédagogue, vous êtes prof Hassan dans la vie ou bien
Des fois, c'est pas en fait, c'est voilà à côté de mon métier musicien, je fais voilà des fois, je donne des cours de musique.
En fait, vous faites beaucoup de choses et vous êtes arrivé avec un album sous le bras qui s'appelle Azrak.
Azrak, c'est le bleu.
C'est le bleu, ça veut dire bleu.
Bleu, ouais.
Pourquoi bleu? Qu'est-ce qui est bleu dans votre vie?
Ma vie, bon, il y a des bleus, hein, pas tout le temps bleus, il y a des moments bleus. Mais en fait, l'idée de départ de cet album, on a, avec le groupe Talawin, on est tombé amoureux des couleurs. On avait envie, voilà, de jouer avec les couleurs. Alors, il y a un morceau qui s'appelle Banaf Saji, violette, et Azrak, voilà. C'est juste... les couleurs aussi, c'est la diversité, c'est la différence aussi. Voilà.
Mm-hmm. Donc violet, on dit Banaf Saji, non?
Banaf Saji.
Ah, trop bien. Banaf Saji.
Banaf Saji, exactement.
Hassan, vous venez de quel pays? Oh, la question pénible.
Non, pas du tout. Mon pays, c'est la Syrie.
Et vous êtes venu depuis?
Depuis 98, ça fait 18 ans à peu près.
Ah, donc vous êtes majeur?
Oui, voilà. Je vais fêter aujourd'hui ma majorité, oui.
Et alors, c'est difficile d'avoir cette majorité. Vous vous sentez comment, après 18 ans en France?
Après 18 ans, le problème, comme je viens de la Syrie, c'est pas évident. Au début, c'était un peu difficile, bien sûr, même trop. Mais dans quelques années, j'étais très bien. Un ou deux ans même, mais après la guerre en Syrie et tout ce qui se passe, ça nous a basculé la vie, je ne sais plus maintenant, depuis 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, mais avant j'étais très bien.
Mmh. Et aujourd'hui, vous le vivez comment, vous, d'ici, ce qui se passe là-bas?
Oui, je ne sais pas comment dire, mais voilà, on est là-bas en fait, on est accroché toujours aux infos de ce qui se passe là-bas, etc. On suit les événements, ce qui se passe, il y a encore quelques villes en Syrie qui n'ont pas encore détruites, on espère qu'ils vont rester comme ça, sans destruction. On essaye là de faire quelques actions pour aider les civils en Syrie, surtout les enfants, l'éducation des enfants, on essaye de faire ce qu'on peut, hein. On ne fait pas grand-chose, mais au moins, voilà, on essaye de bouger un petit peu.
Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites et avec qui?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je travaille dans une association qui s'appelle Alouan, couleur aussi. Vous voyez que j'adore les couleurs, apparemment. parce que, oui. Et cette association existe depuis, en fait, le début de la révolution syrienne, à peu près. On a commencé au début, on ne savait pas quoi faire exactement. On était quelques-uns, juste 3-4. Comme je suis musicien, je jouais, je fais des concerts pour ramasser des fonds, envoyer là-bas en Syrie. Et après, on a structuré cette association, agrandi. Et on a fait des structures plus stables en Syrie, des écoles en fait pour les enfants. On a 3 centres d'éducation pour aider l'éducation de 700 enfants en Syrie. C'est ce qu'on fait maintenant en fait.
Mmh. Et vous arrivez à être connecté avec... avec le terrain là-bas en Syrie? C'est avec quelle ville que vous travaillez?
En fait, principalement, on était sur plusieurs villes maintenant, en fait, avec les événements. On a des projets qui ont été supprimés à cause de la guerre, notamment à Raqqa. On avait un projet là-bas, il a été interdit par Daesh. Et actuellement, on est dans le banlieue de Damas et dans Latakia, la ville du nord de la Syrie. En fait, oui, on a un réseau assez solide, je dirais. Comme moi, personnellement, je suis un ancien prisonnier politique en Syrie, alors je connais beaucoup de monde là-bas qui font la politique, qui faisaient la politique et qui sont actives et qui étaient actives pendant un moment en Syrie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent le pays. Et grâce à ce réseau, en fait, on essaie d'assurer le déroulement de ces projets d'éducation. Mmh. On utilise beaucoup hein, le Facebook, par Facebook, par Internet, ça facilite beaucoup de choses, ça aide beaucoup quand même. Ouais. Et voilà, on n'est pas dans les médias parce que l'objectif, ce n'est pas de faire la politique avec ces projets ou déclarer une position politique. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas l'objectif. Chacun a sa position politique. Notre objectif, c'est l'éducation des enfants. Alors, on essaye d'être loin des lumières, des médias pour assurer le déroulement de ces projets parce que tout le monde est contre nous là-bas. Tout le monde. D'un côté, le régime, et d'un autre côté, la plupart des l'opposition militaire armée en Syrie. Alors, on a l'intérêt de garder voilà, nos projets un peu à part.
Voilà, vous avez bien choisi. C'est la petite loupiote de Blablamix. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop...
Non, de toute manière, il y a plein de projets en Syrie, pas qu'on nous. Et voilà, c'est... Voilà, je ne vais pas vous dire où exactement, par exemple. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait qu'on est un jour un prisonnier politique en Syrie, il y a 18 ans?
Pardon, le début de la question.
Pourquoi avez-vous été prisonnier politique?
Parce que j'étais pas sage, on va dire. Voilà. Je faisais partie d'un parti politique qui s'appelle l'Action communiste en Syrie. Et on était un mouvement pacifique, hein, mais contre le régime, et tout simplement, c'est interdit. Alors, j'avais le droit de 8 ans de prison. Et notamment, voilà, avec le père de Hala, qui est ici présent aussi, au Daï Rajab, qui était avec nous, on est resté 8 ans en prison ensemble.
Uh-huh. Et à quoi ressemble une prison en Syrie?
En fait, c'est une prison, tout simplement. Une prison avec des barres de fer partout, des grandes chambres, des cellules, grandes cellules. On est entassé entre 15 et 20 personnes dans chaque cellule. Des militaires partout, voilà, c'est pas sympa en fait la prison, non. C'est pas beau, non, c'est froid.
Mais vous vous êtes fait un copain, le père de Hala qu'on va interviewer tout à l'heure.
Oui, exactement.
Et les copains, c'est important. Est-ce que ça vous étonne aujourd'hui la situation actuelle en Syrie?
Oui, en fait, ça nous dépasse. Ça nous dépasse même au niveau d'analyse, ce qui se passe là-bas. Ça devient très compliqué parce que tout le monde est tous les puissants internationaux et les puissants régionales sont mêlés dans la situation là-bas entre l'Iran, Turquie, les pays de Golfe, les États-Unis, la Russie, et même Qatar, hein, ce petit pays aussi a le droit de dire son mot sur notre terrain. Et on est un peu perdu. Et comme il y a la guerre incroyable, hein, ce qui se passe au niveau de guerre là-bas, des victimes, etc., ça nous dépasse. Alors voilà, c'est compliqué, c'est compliqué.
Et juste une dernière question sur ce point, et puis ensuite on rentrera dans votre jazz oriental. Comment vous vivez, vous, le peu ou la passivité internationale de l'Europe, en tout cas? Enfin, pour vous, est-elle passive, est-elle active? Est-ce que c'est bien qu'elle soit relativement discrète?
À mon avis, ils ne sont pas passifs. Personne n'est passif. C'est mon avis, hein, après. Parce que la politique, dans le fond, en fait, la politique internationale, la politique des gouvernements, pardon, dans le monde, en fait, ils s'intéressent. Je ne sais pas si dans leur intérêt de créer un pays ou d'aider à la création d'un pays démocratique, etc. À mon avis, leur intérêt, c'est économique, politique, stratégique. Et du coup, voilà, en fonction de notre intérêt, hein, on fait, à mon avis, l'Europe, les États-Unis n'étaient pas neutres. Ils avaient leur même, ils ont participé à la dégradation de la situation en Syrie. La Russie et tous ces pays... on a cru au début, allez, l'Occident va nous aider pour un pays démocratique, mais je peux dire vraiment non, c'était pas le cas, c'est faux, je suis désolé.
Voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Oui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez jouer pour nous?
Ah, jouer la musique tout de suite, jouer la musique, aïe aïe aïe, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut jouer? Est-ce que je peux jouer un morceau que j'ai composé dernièrement et qui est plutôt calme? Oui, ou dans son... Non, calme, hein. Oui. D'accord. Merci alors pour votre patience.
Merci à Sam.
S'appelle Riwaya.
Hassan du groupe Talawin. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre groupe Talawin?
Groupe Talawin, on est trois en fait. On est avec Nicolas Najot, un clarinettiste formidable, mais vraiment formidable. C'est voilà. Et un percussionniste extraordinaire, voilà, qui s'appelle Romeo Montero, qui fait des percussions du Moyen-Orient et de l'Inde. Et moi, Hassan, je joue le oud et je chante un petit peu, hein, pas beaucoup. Notre histoire a commencé il y a 3 ans. On a, en fait, voilà, c'est le CD, ce que vous voyez, c'est un peu les résultats de travail de des années. On avait envie de faire cet album. Musique orientale, un peu jazzique en fait, c'est surtout oriental. Hein. Des fois, on n'arrive pas à la structurer. Comment? Ce sont des compositions à moi et à Nicolas Najot.
Donc c'est l'aboutissement d'un long travail. C'est un événement, ce disque qui est très beau déjà,
ouais.
Azrak, et qui est sorti chez... J'ai beau avoir des lunettes, j'arrive même pas à voir. Arborigène.
En fait, c'est une petite boîte de... Je sais pas comment ça s'appelle, une petite boîte de production... Comment ça s'appelle? C'est Roméo, en fait, qui connaît là, cette boîte. J'ai oublié le nom, mais je peux le trouver.
Enfin.
Non, je ne le trouve pas, c'est pas grave. Mais vraiment, c'est une petite boîte, c'est. Voilà. Voilà, mais c'est
très bien.
Qui ont monté tout quoi.
Et pour ceux qui ont la chance, on va pouvoir vous voir. Vous avez un restaurant dans lequel vous allez faire des concerts, n'est-il pas?
Oui. On a en fait avec des amis, on a un restaurant qui s'appelle César et on a envie de faire de ce restaurant aussi un lieu de culture, de musique, de concert. Et pourquoi pas organiser, l'objectif en fait d'organiser chaque semaine un petit concert de musique du monde, de musique folklorique ou traditionnelle. Bah, ça a déjà commencé, hein. On a déjà fait quelques concerts et ça va continuer.
Mais vous ne voulez pas nous donner une date alors? Vous ne voulez pas non plus qu'on vienne dans votre restaurant?
Si, vous avez la prochaine date, c'est le 15 décembre, jeudi. Le soir, il y a des amis musiciens qui vont jouer... qui vont jouer et chanter du répertoire folklorique syrien. C'est au restaurant 76 rue Pulbert. Alors, si ça vous intéresse, appelez-nous.
Maintenant, on me fait avec Fanny.
Bla bla bla, invité.
Fanny de Singa, bonjour.
Bonjour Véronique, bonjour à tous.
Alors Fanny, on reçoit des mails parfois, nous échangeons par mail et vous avez une signature formidable. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre signature?
Donc, ce que je représente au sein de Singa?
Oui, mais même vous avez une phrase en fin de signature. Mm-hmm.
Je suis coordinatrice de la communauté de Singalion.
Mm-hmm. Non mais je pensais à accueillir.
Renforce les sociétés.
C'est pas mal ça comme philosophie.
C'est la philosophie de Tsinga. Considérer qu'accueillir les personnes réfugiées nous apporte et que se rencontrer renforce la société.
Et ça, vous le pensez vraiment? Vous le constatez?
Oui, j'en suis persuadée. D'autant plus quand on travaille ensemble, entre les personnes réfugiées et les personnes françaises, qu'on avance ensemble et qu'on construit. Alors là, c'est sûr que la société se renforce. C'est ce qui a fondé la création de l'association Tsinga. C'est de se dire que, au-delà de l'accueil, il est important.
Il faut bien parler dans le micro.
Ah, pardon.
C'est juste le détail. Il est important.
Au-delà de l'accueil, il est important de construire ensemble et de partager. Pas seulement d'aider les réfugiés, et c'est donc pas du tout ce que nous faisons au sein de Tsinga. Souvent, les personnes viennent avec cette envie d'aider, et on répond que s'ils ont envie d'apprendre, ils sont les bienvenus, plus que d'aider les...
Moi, j'approuve ce qu'elle dit. Vraiment, je suis vraiment épaté par leur travail. Des gens qui travaillent, qui sont très actifs, ils font plein d'événements. Et à chaque fois, je rencontre un Syrien ou un réfugié. Il a besoin de quelque chose. Là, il m'a dit oui, je connais Tsinga. Je suis. Ça veut dire vraiment, ils ont un réseau très fort et ils font un travail très très intéressant. Voilà.
Alors, merci Hassan.
Qu'est-ce que vous faites alors, Fanny, à Tsinga, si vous n'aidez pas?
On crée des espaces de rencontre et on permet aux citoyens français et aux personnes réfugiées qui arrivent de créer eux-mêmes des espaces de rencontre sur la base de talents ou de compétences qu'ils ont et qu'ils ont envie de partager avec les autres. Donc l'idée, c'est qu'une personne qui se présente à nous et qui a la passion de juste la rencontre et l'échange, ou la passion de l'apprentissage d'une langue, le français, l'arabe, l'amérique, peu importe, puisse se dire « Eh bien, je vais créer un espace de discussion et on va partager nos langues. » Donc ça, c'est l'exemple notamment du Tsinga Blabla qui a lieu maintenant 3 fois par semaine et qui réunit chaque semaine plus de 250 personnes qui viennent se rencontrer et parler, refaire le monde en français, en arabe ou dans bien d'autres langues.
Mais finalement, ça pourrait être un nouveau modèle de société.
On en rêve.
On en rêve. En effet, des espaces d'échange.
Oui.
Et
des espaces d'échange. Alors, il y a également des fois, on force un petit peu les rencontres. On se le permet avec un programme qui s'appelle le programme Buddy. L'idée, c'est de créer des binômes, de créer des relations sur la base de talents, sur la base de passion entre une personne réfugiée et une personne française, tout simplement pour qu'elles se rencontrent et passent du temps ensemble.
Mais moi, je pensais quand même que Tsinga avait un rapport avec les personnes réfugiées et demandeurs d'asile. N'est-il pas?
Oui, tout à fait. J'utilise le terme personnes réfugiées de manière générique, mais effectivement, on ne s'intéresse pas vraiment au papier quand les personnes viennent participer à une activité, à un atelier, à un espace de rencontre. Ce qui nous intéresse, c'est que les personnes aient envie, que les personnes réfugiées de manière générique aient envie de rencontrer des citoyens français et vice-versa.
Est-ce que ça veut dire quelque chose, le mot Tsinga?
Ça veut dire fil en lingala.
C'est fil.
Le fil pour le lien.
Ah oui, d'accord. Un Tsinga, c'est quel?
Lingala. C'est une langue qui se parle notamment en République démocratique du Congo et dans d'autres pays d'Afrique.
Donc le fil, le lien, et vous accueillez aussi donc beaucoup de personnes, des Lyonnais par exemple, et vous leur faites une mini formation que j'ai suivie et qui est vraiment bien, où vous expliquez ce qu'est un réfugié, quels sont ses droits, ses non-droits, comment va-t-il devenir réfugié, et notamment vous donnez une définition du mot réfugié, celle de Diderot et d'Alembert.
Oui.
Ça j'aime beaucoup, vous pouvez nous la donner?
Ce qui est intéressant, alors je ne la connais pas par cœur, ce qui est intéressant dans cette première définition du terme de réfugié dans l'encyclopédie, c'est de considérer que les réfugiés, donc là il était question des protestants qui fuyaient la France, et ils considéraient que c'était un manque à gagner pour la société, parce que c'était des personnes avec énormément de richesses, de ressources, de compétences, d'expériences, et que ça allait être un manque à gagner pour le pays d'accueil, et une vraie chance pour le pays, un manque à gagner pour le pays qui il fuyait, et une vraie chance pour le pays d'accueil. Et finalement, nous, on s'est arrêté à cette définition chez Tsinga, parce qu'on considère évidemment que c'est une chance pour nous, et c'est une opportunité aussi pour la France, que d'accueillir des personnes avec d'autres cultures, d'autres points de vue, et surtout des richesses incroyables. Donc nous, on se tient un petit peu à cette
définition. Ça fait plaisir d'entendre ça, oui.
N'est-ce pas? Mais Fanny, la semaine dernière, à votre place, il y avait Nadette de Welcome JRS,
oui, oui,
qui venait présenter aussi cette association qui vient en aide aux personnes à Dipou, par exemple, ou Schumann. Et eux existent depuis plusieurs années, et vous, vous existez seulement depuis un an. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps?
On a grandi parce qu'on est tout, on est assez jeunes, surtout les fondateurs qui ont créé Singa il y a 5 ans, à peu près 25 ans, voilà. Donc c'était un petit peu peut-être le temps de prendre conscience d'une réalité et d'une envie et d'un besoin. L'envie et le besoin qu'ils ont ressenti en créant Singa, c'était qu'il y avait d'un côté énormément de personnes demandeuses d'asile et réfugiées qui avaient ce besoin de se dire mais bon sang, où est-ce qu'on rencontre des Français, et parallèlement des citoyens français qui avaient envie de dire mais on a envie d'accueillir, on a envie de rencontrer et qui ne savaient pas comment le faire, tout simplement.
Et vous, est-ce que vous êtes salariée?
Oui, je suis salariée de Singa Lyon.
Est-ce qu'il y a une formation pour être une accueillante ou une responsable de Singa?
Alors, c'est quand même beaucoup de gestion de projet, évidemment, et il me semble, et beaucoup d'implication personnelle au-delà d'une formation professionnelle, c'est-à-dire avoir l'envie de créer des liens et l'envie d'aller plus loin ensemble. Je ne sais pas si c'est ça une
formation. En tout cas, formation. Vous êtes une personne, si Richard était là, qui vous connaît un peu, il était très impressionné, vous êtes quelqu'un de rayonnante, j'imagine qu'on ne peut pas être positif de 8h du matin à 8h du soir, et puis après, on a fini sa journée et on fait autre chose. Finalement, l'accueil, vous l'avez en vous. D'où venez-vous? Qui êtes-vous, Fanny? Pourquoi êtes-vous comme vous êtes? Oui, c'est une question difficile, c'est vrai.
Oui, c'est une question très difficile.
Quelle est votre couleur préférée, alors?
Mince, j'en ai pas. Je me suis jamais posé cette question.
Oui, on attend longtemps pour Fanny, oui.
Oui, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, oui.
Et justement, Dipou, est-ce que tu aurais une question plus facile, alors, pour Fanny, puisque les miennes sont difficiles?
Oui, comment tu passais la fête de lumière?
Alors, à vrai dire, je n'ai pas fait la fête des Lumières cette année, comme une très mauvaise Lyonnaise.
Donc c'est bien. Fanny n'a pas de couleur préférée. Par contre,
le Singatour a proposé.
Fanny, elle n'aime pas la fête. Je pose.
Si, si.
Le Singatour a organisé vendredi une visite de Lyon inédite. Je crois que vous avez déjà reçu Clément probablement et Abdelaziz aussi qui a dû vous en parler. Ils organisent une visite de Lyon qui fait des ponts entre l'histoire de Lyon et l'histoire des pays d'origine de personnes réfugiées, membres de Singa, ou encore de religions dont ils ont envie de nous faire partager. Il y a d'ailleurs une prochaine visite tout à l'heure à 14h qui commence, alors n'hésitez pas à la rejoindre.
Bien sûr, vous n'hésitez pas donc à vanter tous les projets qui se créent dans Singa et qui mettent en lien. Est-ce que vous auriez peut-être une histoire, quelqu'un qui vous a vraiment frappé pour nous raconter un petit peu ce que vous faites, pour nous montrer? Il y a encore des interférences téléphoniques, peut-être que Fanny, vous avez un portable allumé ou non? Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué, qui est arrivée, qui était vraiment mal et malheureuse, et que Singa a vu se développer et redevenir quelqu'un de joyeux?
Alors, j'oserais pas dire, j'oserais pas parler
au
nom
beaucoup
d'une personne.
Moi, je connais déjà des dizaines. Oui.
Ah bon?
Mais Fanny,
oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais si tu m'entends, Touré, je me permets de rappeler une petite phrase que tu m'as dit l'autre jour. Donc, c'est pas forcément de passer d'un malheur à forcément un bonheur, mais en tout cas, si on doit parler d'inclusion, au début, Touré, qui était hébergé chez une famille d'accueil du programme Comme à la maison, ne comprenait absolument pas et voire était assez agacé de rentrer chaque soir et qu'on lui demande « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Raconte-moi ta journée. » Il trouvait cette question complètement absurde. Pourquoi ? tous les soirs se raconter sa journée. Passons un moment ensemble, vivons-le. Et il comprenait pas bien. Et puis il comprenait pas non plus pourquoi nous les Français on pose beaucoup de questions quand on se rencontre. Et d'où tu viens? Et qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi t'es là? Quelle est ton histoire?
Oui, c'est une question normale, oui, c'est ça, oui.
Mais c'est pénible.
Non, non, devant un peu bizarre parce que notre pays, c'est pas comme ça.
On fait pas d'interrogatoire.
Non, c'est interrogatoire qui pas demande la question comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire?
En permanence.
Comment ta journée? C'est ça. Oui, devant un peu. C'est maintenant, c'est normal, oui. C'est habitude, oui.
Ouais, maintenant, tu as pris l'habitude.
Oui, oui.
C'est ça. Et c'est effectivement ce que nous a dit Touré l'autre jour. C'est qu'il a posé des questions. Il a rencontré dans la rue Jennifer, avec qui il est en binôme, avec qui ils sont tout simplement amis. Et il lui a posé tout plein de questions. Et après, il s'en est rendu compte. Il a dit: oh là là, ça y est, je crois que je suis français. Ça nous a fait bien rire.
Et Fanny, est-ce que vous avez l'impression que justement les Français, comme moi par exemple, française, on a une vision du réfugié idéal?
Oui, je crois. C'est vrai qu'on ose le dire quand on donne les formations d'accueil des nouveaux membres. La première étape, quand on s'implique chez Singa et qu'on est membre de la société d'accueil, donc français ou résident ici depuis nombreuses années, on demande aux personnes de bien vouloir faire le deuil du réfugié idéal, parce que beaucoup de représentations sont évidemment fausses par rapport à la réalité. Et c'est souvent ce qui est véhiculé dans les médias, l'image d'un pauvre réfugié, l'image d'une charge, l'image d'un flux, de quelqu'un qu'il faut aider. Et la première étape, c'est donc de faire le deuil de cette image-là pour être prêt à accueillir des personnes qui vont nous apprendre beaucoup de choses.
Et quelqu'un aussi qui devrait nous dire merci tout le temps.
Aussi, oui, c'est vrai que souvent les personnes qui veulent aider des personnes réfugiées, naturellement, vont avoir cette attente de personnes très reconnaissantes, et c'est pas...
Oui, parce que moi j'ai participé à quelques événements de Singa, du coup j'aimerais bien aussi parler un petit peu. Je vois qu'ils ont une conscience politique très intéressante, c'est ça qui aide aussi que ça continue comme il faut. C'est pas juste de donner en fait, c'est pas la question des fois. Il faut donner, mais dans quel esprit, c'est ça. Moi j'ai fait une fois par exemple une marche, tout simplement, ils ont organisé une marche dans les Mont-Lyonnais, j'étais avec eux, on était une quinzaine. Et c'était mélange de tout, France, ailleurs, Égypte, Maroc, Syrie, pays de l'Est. Et au fur et à mesure, en fait, on a commencé tous ensemble à discuter des choses, mais très sensibles aussi. On discute la religion, la politique, la démocratie là-bas, etc. Des choses très problématiques et avec un esprit, je trouve, qui est un esprit ouvert. Et on n'a pas, c'est vrai, à la fin, on sent qu'on n'y a pas un réfugié en français, on est un groupe. Et c'est ça qui est bien, cet esprit-là, exactement.
Et justement, c'est un bon ambassadeur.
Excellent ambassadeur, Hassan.
Et Fanny, est-ce que vous avez l'impression, justement, que Singa réveille les Lyonnais, enfin ceux qui viennent chez vous? Est-ce que ça change?
Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression parce que nous sommes arrivés en janvier 2016 et aujourd'hui, on est près de 950 membres actifs à Lyon. Donc je crois que c'était une envie des personnes de vivre ces expériences et de vivre ces rencontres très fortes, puisque nos réunions d'information des nouveaux membres ne désemplissent pas. Elles ont lieu chaque mois et on accueille à peu près 80 nouveaux membres tous les mois. Donc c'est dire de façon indistincte personnes françaises, personnes étrangères, réfugiées. Et c'est dire qu'il y a une envie.
Est-ce que vous voulez nous parler d'un projet sur lequel vous travaillez? Est-ce que Fanny est en train de... pas Fanny, Singa, est en train de monter quelque chose dont on devrait parler aujourd'hui?
Alors, peut-être qu'on pourrait parler du fait qu'aujourd'hui, on est souvent sollicité par des groupes de citoyens ou de personnes réfugiées d'autres villes qui ont envie de monter une association, un collectif ou une autre association Singa. Et aujourd'hui, du coup, on est dans cette évolution. Singa, avant d'être une association qui apporte un service, c'est donc un mouvement citoyen porté par ses membres. Et l'idée est que Singa Lyon soit portée et gérée par ses propres membres et que nous puissions accompagner d'autres groupes de personnes dans d'autres villes à créer leur antenne et que de belles rencontres aient lieu ailleurs. Mmh.
Dans un instant, nous allons accueillir Allah. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vue?
La première fois où je t'ai vue, Allah, j'étais impressionnée parce que tu parlais très peu français et tu me disais, je suis en train de préparer un scénario parce que je vais rentrer dans une école de cinéma à Lyon dans 2 mois. Et j'ai été bluffée. Et aujourd'hui, tu y es. Je t'ai croisée dans le métro l'autre jour. Tu n'as plus ou presque aucun accent français.
Et elle va nous parler du documentaire qu'elle est en train de faire. Mais tout de suite, on écoute une chanson que Hassan, vous nous présentez en 2 mots.
Ou pas. Un morceau.
Non, c'est celui-ci, le voilà.
Décors, cordes,
esthétique,
rôle, ambiance,
artiste, esthétique,
nom de l'acteur,
travailler à la télé,
adresse, lumière, numéro de téléphone,
arnaqueuse à la télé,
adresse mail,
batterie,
silhouette, décor.
Elle a influencé sa fille,
directeur de l'école, responsable deuxième année,
vocal,
sa fille n'arrive
mise
pas
en scène,
contact,
dans l'honnêteté.
Casting,
autorisation,
scénario,
production, une mobilette ou un
régie, pièce, image, appareil,
une mobilette ou
son,
lentilles.
Costume, zoom, maquillage,
un scooter,
action, coiffure, réalisateur, électricité, machinerie, autorisation, décoration, metteur en scène,
Elodie,
montage
des nouvelles
et post-prod
pour la chaise roulante.
Chef Hop,
en fait,
chef Hop son.
La chaise roulante. On l'a, la chaise roulante, ou bien
Blablabla poche.
Le bruit de la rue en face, comme le bruit de la mémoire. Ma fenêtre se prélasse dans la lumière. Mes mains sont un balcon pour les larmes des deux rivières. Ma rue se cache dans le printemps de ville occidentale, comme la lettre coloriée d'un enfant. Derrière moi se cachent les douleurs de ville dévastée. Un arbre ici saisit la profondeur de la plaisir de sa présence. Le café est une étreinte furtive entre deux roues. Les cordes secrètes de la mémoire se tendent vers le passé. Le passé dans la bouche d'un garçon de cirque. Soudain, les contes vont s'échapper comme des pleins mouchoirs vers la rue. Le public applaudit, une larme coloriée s'incline sur la scène.
Le passé dans la bouche d'un garçon de cirque. Où est-ce que vous avez trouvé cette phrase là et que venez-vous de lire?
En fait, j'écris ça en arabe d'abord. Après, il y a quelqu'un qui a fait la traduction en français. Et je ne sais pas, c'est ça la poésie. Il entre dans la tête. On n'a pas trouvé les mots. Mm-hmm. Les mots, il est dans la tête. On écrit juste. Ouais.
Donc en fait, vous avez écrit ce poème en arabe.
Ouais.
Et là, il a été traduit. Et comme vous êtes une sorte de cascadeuse de la vie, vous vous êtes lancée dans une lecture en français, accompagnée par votre ami Hassan, l'ami de votre père. C'est une famille. Quand vous êtes arrivée à Lyon, ouais. Vous êtes allée chez Hassan. Comment ça s'est passé, votre arrivée à Lyon?
En fait, on est arrivé à Lyon il y a 10 mois. Heureusement, on dit. Heureusement, par avion.
Oui, 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 heureusement.
On est arrivé à Lyon. Hosting en anglais.
Accueilli
par une famille française qui travaille dans l'association Alouane pendant 2 mois, et après on a loué notre appartement, moi et mes soeurs, et on a commencé.
Et vous avez quel âge alors?
Moi, 24.
Si vous n'étiez pas partie en exil, vous feriez quoi comme études aujourd'hui, et vous seriez où?
En Syrie, normalement.
Mmh. Dans quelle ville?
L'attaqué, j'ai fait le droit moi, j'ai pas trouvé un travail parce que la situation économique et politique et la situation en général en Syrie, elle était pas bien, et j'étais obligée de trouver n'importe quoi pour travailler. Mmh. Ouais.
Et alors, du coup, le n'importe quoi était le cinéma?
Non, à Lyon, non, c'est pas ça. L'idée pour entrer à la Cinéfabrique, elle était en France. Mm-hmm. Et parce que moi, j'ai rencontré la Cinéfabrique par Alouane aussi.
Super Alouane, hein, merci
ouais.
beaucoup Alouane.
Par Fabienne. Et parce qu'elles ont demandé de rencontrer des réfugiés. Pour faire un série de, je pense, un série, ouais, sur les réfugiés syriens. Et c'était moi et ma sœur. Et on a parlé avec les élèves de la première année. Après, moi, j'ai passé la concours de la Cinéfabrique.
et je suis à la Cinéfabrique maintenant.
Mais le cinéma, vous y aviez pensé avant ?
Oui, parce que moi je suis écrivain et je suis amoureuse du cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, oui.
Quelle est votre réalisatrice ou votre réalisateur préféré ?
Oh, il y a beaucoup, hein.
Oui, je pose des questions un peu difficiles ce matin. J'avoue.
Il y a, on commence par où, hein. Giuseppe Tornatori, italien. Mm-hmm. Charlie Kaufman, américain. Il y a beaucoup.
Un français, non ?
Almodovar. Il est espagnol. Mm-hmm. Oui, français. Il y a Godard. Il y a Annie Varda. Mm-hmm. Il y a beaucoup.
Et il y a Allah, bientôt. Mm-hmm. Votre nom de famille, on peut le donner pour,
Rajab, oui. R-A-J-A-B. Mm-hmm.
Alors, comment se passe une journée à Cinéfabrique, pour nous donner une idée ?
La journée ?
Oui.
j'étais allée là-bas et j'ai écouté tout le temps 10h vers 10h de français.
Ah oui, et vous ne parliez pas français, hein, on le rappelle.
Non, je ne parle pas le français et c'était difficile d'abord. Après ça va maintenant, il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas, mais pour moi ça va maintenant. Oui.
Mais comment on fait pour apprendre le français en 10 mois tout en apprenant une matière ?
Moi, j'ai commencé à parler le français il y a 3 mois et demi. Quand j'étais à Singa la première fois, quand j'ai entré à la Cinéfabrique, j'ai pas parlé le français. Ouais. Je parle anglais tout le temps avec les gens. Ah. Et après, j'étais obligée à cause de l'école. Uh-huh. Ouais, j'ai fait un agenda. J'ai noté les mots que j'entends et j'ai pas compris. Et après, je rentre à la maison, j'ai offert la traduction.
Le dictionnaire.
J'ai cherché les mots, j'ai noté, et j'ai mon agenda, j'ai les mots que.
Oui. Donc ça fait des grosses journées. Mais juste puisque nous parlions de Singa avec Fanny à l'instant, vous pouvez nous raconter quand vous êtes arrivée à Singa ? Comment vous êtes accueillie ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on vous demande ?
J'ai rencontré Fanny avec Fabienne, avec Alouane. Et j'étais en train d'écrire un scénario pour faire un court-métrage pour le concours de la Cinéfabrique. Et j'ai demandé à Fanny de trouver quelqu'un pour m'aider pour faire le CV, notre attention. Et elle m'a donné des coordonnées de quelqu'un. Et après, elle m'a invité pour profiter à Singa Plapla. Mm-hmm. J'étais là-bas.
Pour apprendre à parler français.
Oui, une fois, j'étais là-bas, oui.
Juste une fois.
Oui, une fois, parce que après
parce que j'ai commencé pas bien, en fait.
Non, parce que j'ai commencé l'école et après j'ai pas le temps.
Et oui. Ouais. Et à Cinéfabrique, est-ce que les élèves vous aident ou pas ?
Oui, beaucoup. Mmh. Mmh. On travaille en binôme chaque semaine parce que chaque semaine on a une formation différente et on travaille en binôme. Mais quand j'ai avec quelqu'un, il m'aidait. Oui, ça va.
Alors, le français, c'est un outil, mais votre cinéma, entrons dans votre cinéma, à quoi va-t-il ressembler ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre documentaire que vous êtes en train de faire ?
Ouais.
Qui est le sujet ?
C'est sur les réfugiés qui arrivent en France et étaient obligés de changer les métiers, étaient obligés de quitter la pays et de changer le métier à cause de la langue, à cause de les papiers, à cause de l'administrative, à cause de beaucoup de choses. Et moi, j'ai choisi un personnage parce que le temps s'était limité. J'ai fait le documentaire dans le cadre de l'école avec un binôme qui s'appelle Tirsou. Et j'ai choisi Badran, mon personnage, qui était un chef de son entreprise qui travaille dans la chambre pétrolière en Syrie. Mmh. Et maintenant, il travaille dans le restaurant César à Lyon. C'est quoi l'adresse, Hassan ?
C'est lui le patron.
C'est quoi l'adresse ?
C'est 76 rue Paulbert. Venez nombreux.
Ouais. Le restaurant où il y aura des concerts.
Voilà, il y aura des concerts.
Donc c'est lui.
Oui, parce que je lui ai rencontré la première fois à Lyon. Elle était avec mon père en prison aussi. Et il m'a parlé sur sa vie en Syrie, sur sa vie en France, son difficulté avec la langue, son difficulté avec le change de l'amitié, parce que lui, il aime rester dans le désert, dans l'espace ouverte, pas fermée. Et maintenant, dans le restaurant, il est
enfermé.
Ils sont enfermés, ouais.
Et il a du mal.
Il a du mal. Un peu, oui.
Ce qu'il a du mal, en fait, c'est un travailleur. Il travaille. Mm. Il n'a pas de problème avec le travail, mais les codes d'ici, c'est ça qui est compliqué. C'est la manière de travailler, c'est la France, en fait, pour lui. Et apprendre comment on peut travailler, c'est ça le plus difficile pour lui.
Bien sûr. Oui. Et ses traumatismes aussi, post-guerre, non ? Dans le documentaire, il a des problèmes, des douleurs.
Ouais, parce que lui, il a perdu son métier à cause de la guerre. Et son entreprise, elle était détruite. Et l'islamiste, ils ont pris le quartier, on dit, où elle était travaillée. Et après, elle était obligée de quitter la vie. Dans une autre ville, et après elle a quitté le pays. C'est ça.
Et quel parti pris alors cinématographique tu as pris? Comment tu le filmes? Comment ça s'est passé?
Ouais, je fais. J'étais avec lui pendant 3 jours. On était seul, parce que moi j'ai pas l'envie de filmer les clients. Lui avec les clients.
D'accord.
J'ai filmé lui pendant le travail, dans la cuisine, dans la salle. Et il a une habitude qui est un peu bizarre. Il filme à l'extérieur. Ouais, il filme à l'extérieur toujours, parce que il ne peut pas rester dedans tout le temps. Il filme toujours à l'extérieur. Moi, j'ai pris dans plusieurs parties de la journée. Lui, à l'extérieur, filmé. Et il parle sur. J'ai fait une interview traditionnelle, on dit.
Oui.
avec lui. Lui parlait sur son vie avance en Syrie, et sur son métier, et après sur son métier en France, et c'est quoi la différence entre les deux, et pourquoi il aime pas.
Pourquoi il aime pas. Un peu comme nous ici à Blabla Mix, sauf que c'est filmé extérieur, intérieur.
Intérieur, c'est toujours intérieur.
Ah d'accord.
Ouais.
Donc quand il va faire ses pauses cigarettes, on le voit pas.
Non, on le voit, mais la caméra, elle était à l'intérieur.
Ah, c'est super, ouais. Hassan ?
Là, juste un petit mot vite fait pour dire que, voilà, en fait, Oudaï Rajab, c'est notre ami, le père de Hala. Il a été, en fait, torturé en Syrie, en prison, il y a 2 ans. Il était en prison et il est mort, en fait. Il est décédé suite à cette torture, en fait, en Syrie. Et ça a basculé toute la vie aussi, peut-être. Je ne sais pas si c'est bien de le dire. Je ne sais pas. Désolé, mais voilà, je trouve quand même c'est important de le dire.
Ben, j'ai l'impression que c'est bien de le dire. Et Hala, donc maintenant, tu en es où? Le tournage est terminé?
Oui.
On va bientôt voir le film?
Oui. Je ne sais pas encore. Hein.
Mais il faut faire le montage ou...
Ouais.
Ah voilà, il me semblait quand même.
Ouais.
C'est important le montage.
C'est le plus important.
Voilà.
Ouais. Parce qu'elle change tout. Hein. Elle change tout le montage. Mm-hmm. Ouais.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et puis, bien, on espère que tu reviendras nous dire quand on va pouvoir le voir.
Ouais.
Et dans un instant, dans quelques secondes même, Florian, tu nous dis ce qu'on va faire cette semaine.
Oui.
C'est l'heure de l'agenda.
Ouais.
Avec
très rapide, ouais, effectivement.
D'accord. Avec un tapis sans culotte. Schumann, tu as ça? Allez-y. Avec Loud. Ah si, oui, c'est bon.
Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais juste vous reparler un petit peu des Singa Blabla qui sont maintenant hyper nombreux toute la semaine. Donc voilà, comme d'habitude, toutes les semaines. Alors tu me dis Fanny si je me trompe. Alors ça commence dès le mardi avec les étudiants de Sciences Po, c'est ça, au centre Berthelot. Alors il y en a, ce qui dit aussi a lieu cet atelier le mercredi après-midi, c'est bien ça. Donc les étudiants de Sciences Po hyper impliqués. Mercredi après-midi, ça se passe au centre social Bonnefoy, voilà, près de l'arrêt de métro Guillotière. Et un dernier atelier qui se passe le jeudi soir, donc de 18 à 20 h, et c'est à la maison de l'éducation dans le premier arrondissement. Voilà, donc 4 séances, 4 ateliers Singa Blabla toutes les semaines. Et je voulais faire un petit coup de pub juste pour ce samedi, où il y a un atelier qui a commencé il y a quelques semaines sur la capoeira Angola, voilà, de laquelle je participe aussi, et on fait une petite initiation qu'est-ce que c'est la capoeira Angola, et tout le monde est bienvenu, on chante, on joue de la musique et on fait des mouvements de capoeiristes. Donc voilà, et ça se passe au centre social Bonnefoy le samedi matin de 10h à midi, donc vous êtes les bienvenus aussi à cet atelier.
Vous écoutez Blabla Mix de la radio Canou à Sordo Poado. Il est 2h59. Et merci beaucoup à toutes. Merci Véronique, merci Hala, merci Fanny, merci Hassan, merci Lena, merci Schumann et merci Florio. Bonne journée, à la semaine prochaine. Merci.